France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Léa Capuano, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'était Lisieux. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Nous verrons comment la Turquie tente de se replacer au centre du jeu diplomatique alors que les délégations russes et ukrainiennes sont arrivées à Istanbul pour des pourparlers. Et ce, alors que la Turquie est dans un moment de crise politique et même démocratique depuis l'arrestation du maire d'Istanbul. Nous évoquerons également le tournant que représente la dissolution du PKK annoncée cette semaine avec nos invités Ahmet İnsel. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Et vous serez rejoint par Jean Marcoux à distance depuis Grenoble tout à l'heure. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Véronique Adorman.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter à Libération, ancienne correspondante à Moscou. Et c'est en Ukraine, à Kiev, la capitale, et dans la province de Zaporijjia que nous emmènent vos derniers reportages. Vous y racontez ce quotidien qui s'installe durablement dans la guerre, ces vies qui n'ont plus rien de normal mais qui aspirent pourtant à l'insouciance et à la banalité, celle d'avant l'invasion russe. Vous décrivez les stratégies mises en place par les habitants pour continuer à enseigner, travailler, administrer, malgré la menace des drones et des obus, malgré la hantise de ne plus avoir de nouvelles de leurs concitoyens et de leurs proches qui vivent dans les territoires occupés. Justement, dans l'oblast de Zaporijjia, on estime que 200 000 déplacés de l'intérieur y ont trouvé refuge. Dans quelles conditions y vivent-ils ?
Alors, ça dépend. Ils sont pour beaucoup arrivés un peu dans l'urgence au moment, donc en février-mars 2022, parce que cette ligne de front, en fait, n'a pas tellement bougé. Donc, les attaques russes ont commencé et très rapidement, les Russes sont arrivés jusqu'à cette ligne-là en coupant à peu près 70% du territoire, donc de la surface de la région de Zaporijjia. Donc beaucoup de gens tout de suite ont fui et ensuite ils ont continué à arriver un peu au compte-gouttes à mesure que les combats continuaient. Et dans les premiers temps, ils se sont essentiellement installés dans des endroits de fortune, dans des dortoirs, dans des refuges, voilà, mis à disposition par les autorités. On se souvient, mais c'était pareil, c'était les images dans les grands centres commerciaux. C'est par là qu'on avait vu arriver aussi les gens qui arrivaient de Mariupol occupé ou de Melitopol. Donc c'était des espèces de hubs qui recevaient les réfugiés, qui ensuite commençaient à les dispatcher. Alors c'était dans des écoles, c'était dans des foyers. Et puis petit à petit, ça s'est tassé. Ça fait 3 ans quand même que la situation est la même. Et ceux qui en avaient les moyens ont pu se louer des appartements et s'installer à peu près correctement. Mais il reste encore énormément de gens qui vivent dans des situations assez précaires, mais qui se pérennisent et donc qui sont dans ces foyers, qui sont entassés à une seule famille, dans une seule pièce, et qui continuent à être soutenus, et c'est ce que je décrivais dans ce reportage, qui continuent à être soutenus par leurs administrations d'origine, donc les gramades, qui sont ces collectivités locales, et qui essayent en fait de continuer à administrer les gens d'un même village, d'une même agglomération, mais en exil.
Et qui ont elles-mêmes trouvé des lieux de refuge temporaires pour continuer à exercer l'administration de leur collectivité. Juste encore un point sur ces réfugiés. Vous expliquez qu'ils ne sont pas partis loin, très loin de la ligne de front au moment de leur fuite, parce qu'ils avaient l'espoir de revenir rapidement. Que reste-t-il de cet espoir aujourd'hui ? Comment vous ont-ils évoqué la façon dont ils pensent à leur retour ?
Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, ils pensaient en 2022. Déjà, tout le monde était très surpris par cette offensive qui un peu sortie de nulle part pour beaucoup de gens. Ensuite, il y avait de gros espoirs placés dans la contre-offensive préparée par l'Ukraine, et donc les gens qui partaient dans les mois qui ont suivi le début de l'invasion voulaient rester plutôt prêts en se disant que voilà, au moment où l'Ukraine allait rabattre l'ennemi, ils pourraient rentrer chez eux, même si c'était rentré dans des villages détruits, même si c'était rentré, mais ils étaient prêts à rentrer. Et puis petit à petit, ils se sont rendus compte que ça n'arriverait pas. Et ceux qui sont restés là, de toute façon, considèrent qu'ils rentreront un jour. Et je n'ai pas entendu une seule personne me dire c'est fini, c'est perdu. Même quand on essayait de rentrer dans des conversations un peu plus poussées sur voilà, il y a peut-être des négociations qui vont se mettre en place. Et puis on voit bien que les Américains sont assez, ou Donald Trump personnellement penche plutôt du côté de Poutine pour lui donner ce que Poutine voudrait, que peut-être que la ligne de front pourrait geler là où elle est en ce moment. C'est inaudible, c'est impensable et c'est chez eux. Et donc que ce soit un jeune, un vieux, une mamie, un employé municipal, un prof, tout le monde considère que les territoires occupés, c'est l'Ukraine, c'est chez eux, il y a leur maison. Même si la maison n'existe pas, ils iront la reconstruire. L'essentiel est vraiment ce terme d'homme, être à la maison. Donc vraiment, ils veulent rentrer chez eux.
Mais alors, comment perçoivent-ils justement la séquence diplomatique qui est en train de se jouer en ce moment avec des négociations, qui, en tout cas des pourparlers qui s'amorcent en Turquie entre des délégations ukrainiennes et russes? Comment en Ukraine on perçoit cela? Est-ce que c'est avec espoir que la guerre cesse et donc avec elle les bombardements, la violence, mais aussi peut-être avec la crainte que ces négociations débouchent sur des compromis ukrainiens qui seraient la perte de territoire?
Il y a un peu de tout, parce que effectivement jusqu'à l'arrivée, au retour de Donald Trump à la Maison Blanche, on était depuis un an, je sais, grosso modo, il y a une espèce de stagnation dans cette guerre. Et en fait, on sentait, quand j'y suis allée l'année dernière en Ukraine, et même en janvier, au début de cette année, on sentait qu'il y avait une espèce de résilience, de résignation, où les gens se disaient ça va durer éternellement, il se passera plus rien, on est coincé dans un... Et puis tout d'un coup, le retour de Donald Trump a vraiment tout secoué. On s'est rendu compte que les choses allaient bouger, il y avait un énorme espoir au départ qu'il allait faire plier Poutine, parce que ce qu'il avait annoncé d'ailleurs, qu'en 24 heures, tout serait plié, tout serait réglé. Et donc même si les Ukrainiens ne sont pas dupes et voient bien que de toute façon Poutine, lui, n'a pas bougé d'une seule ligne et que ses revendications sont les mêmes et qu'il veut la défaite et la capitulation de l'Ukraine et veut garder tous les territoires, voire plus que ce qu'il occupe, et le désarmement et la capitulation de Zelensky, qu'il ne reconnaît pas, le président Volodymyr Zelensky, pour lui, n'est pas légitime pour Poutine. Donc, même s'ils ne sont pas dupes, il y a quand même cette espèce de, malgré tout, au niveau émotionnel, un peu presque irrationnel, cette idée que la glace a bougé et que quelque chose est en train de se passer. La venue des leaders, des dirigeants européens à Kiev samedi dernier, donc j'y étais aussi, les gens auxquels je discutais un peu comme ça dans la rue, pour eux, c'était important parce que pour eux, ça voulait dire que si... Voilà, s'il y a des dirigeants, des présidents, Emmanuel Macron ou Keir Starmer, ou s'il y a des dirigeants européens qui font le voyage, qui font le déplacement, ça veut dire que c'est sérieux, qu'ils prennent très au sérieux leur soutien à l'Ukraine, la possibilité de faire bouger les choses. Et donc ça remet de l'espoir, les gens.
Alors même que ces déplacements de hautes personnalités européennes ne sont pas nouvelles depuis 3 ans, des déclarations de soutien pas nouvelles également, mais vous dites que parmi les personnes que vous avez rencontrées à Kiev lors de ce moment-là, il y a encore de l'espoir, il y a encore l'idée que s'ils font le déplacement, c'est que les choses peuvent encore bouger.
Parce que chaque mouvement, en fait, est un espoir. Même si on sait, même si à chaque fois, alors il y a un espoir, et puis ensuite la tension redescend et les gens se rendent compte que rien n'a vraiment bougé. Et en même temps, cette séquence-là est un peu différente parce qu'on voit que les choses se précipitent, on voit que c'est pas un dirigeant, mais quatre, que les déclarations sont de plus en plus fortes. Alors bien sûr, on attend que ce soit suivi de faits, mais il y a des mots qui sont de plus en plus forts, qui sont prononcés. Cette idée d'une force européenne, occidentale, qui serait... enfin physiquement présente sur le territoire ukrainien qui fait un petit peu son chemin, la déclaration des occidentaux de dire voilà, si la Russie enfreint le cessez-le-feu, on va augmenter les sanctions. Donc bien sûr que tout ça c'est des déclarations, on attend de voir, parce que l'ultimatum lancé à Poutine est terminé depuis lundi. Il fallait que le cessez-le-feu rentre en vigueur lundi 12 mai. Il n'est pas rentré en vigueur. On n'a pas vu de sanctions encore. La conversation continue, mais il n'y a pas eu d'acte pour l'instant. Mais tout ça, ça a quand même son importance. Parce que ça sort aussi les Ukrainiens de très longs mois, un peu de torpeur et de l'impression qu'on les avait oubliés. Et puis l'actualité internationale qui reprend le dessus. Et puis il y a des guerres partout. Et l'Ukraine repasse au second plan. Et la fatigue ils la sentent bien, la fatigue aussi informationnelle de tout le monde, que voilà, il y a de moins en moins de journalistes qui viennent, il y a de moins en moins de moments un peu importants, donc c'est pas rien.
Et en attendant les faits, justement, à Zaporijjia, il faut continuer à vivre, il faut continuer à se protéger. Et une des priorités de l'administration, eh bien, c'est de faire fonctionner les écoles pour que la nouvelle génération ait une vie qui ressemble à peu près à une vie normale. Vous avez visité des écoles souterraines qui ont été construites à Zaporijjia. Il y en a 6 et ce ne sont pas de petites écoles. C'est plus de 1400 mètres carrés de couloirs, de salles de classe, de cafétéria. À quoi ressemblent ces lieux-là?
C'est très impressionnant, effectivement, parce que donc, les gamins ukrainiens, avant la guerre, avaient déjà passé 2 ans, 3 ans en visio pour leurs cours, donc n'avaient pas vu une salle de classe. Donc la guerre commence, ils ne peuvent pas, ceux dans les régions qui sont proches des combats, ne peuvent pas aller en cours parce que c'est trop dangereux, parce que les écoles ne sont pas équipées pour accueillir des enfants et les protéger assez vite, et les alertes aériennes sont permanentes. Et comme le disait le gouverneur de Zaporijjia, il faut moins d'une minute pour un missile pour arriver sur la ville, donc impossible de les protéger. Et donc au départ, différentes solutions avaient été trouvées. À Kharkiv, les enfants sont descendus dans le métro, donc les écoles souterraines dans le métro, et à Zaporijjia, ils se sont dit, bon voilà, ça va durer. Il y a 150 000 élèves, il faut en faire quelque chose, les familles s'en vont, parce que les enfants ne peuvent pas être scolarisés correctement. Donc ils ont construit des abris, donc c'est des vrais abris atomiques, sauf qu'ils les ont construits géants. Donc si avant on construisait des petits espaces qui étaient prêts à accueillir simplement une centaine de personnes qui pouvaient s'asseoir en tailleur et attendre que ça passe, maintenant ils construisent. Donc celle que j'ai visitée, 1400 mètres carrés, c'est la plus grande, mais elles font toutes entre 1000 et 1400. On descend sous terre, c'est 7 mètres sous terre. Donc à la surface c'est un champ. Donc de terre fraîche, et puis une petite cabine, et puis on rentre dans la petite cabine, et puis on descend très très bas, et on arrive dans une boîte en béton, mais c'est des enfants, il faut qu'ils passent leur journée là, la lumière a été étudiée pour qu'elle soit pas trop agressive, il y a des applications au mur, des dessins, de la décoration, autant de couleurs qu'on puisse mettre. Alors voilà, leur priorité, c'était quand même d'arriver à construire ces espaces, d'y mettre un maximum d'enfants malgré tout. Donc évidemment, on n'est pas dans les normes du mètre carré par élève, mais on n'a pas l'impression d'être dans un bunker. On a l'impression d'être peut-être dans un préau ou dans des salles un peu. Il n'y a pas de fenêtres. Alors moi, je m'en rends compte parce que je descends pour la première fois. Les enseignants me disaient que les enfants s'en rendaient même pas compte, qu'ils y pensent pas à ça, parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a des écrans, il y a des grands écrans plasma de télé, donc et pour les cours et pour se connecter avec les. Il y a des élèves qui se connectent encore de l'extérieur, qui sont soit dans d'autres régions ukrainiennes, mais qui ont décidé de rester dans ces écoles-là, ou qui sont même partis à l'étranger, qui continuent à suivre l'enseignement ukrainien dans leur école d'origine de Zaporijjia. Donc il y a ces grands écrans qui sont partout. Il y a de la musique pendant les récré pour que les gamins puissent courir et danser. Il y a un baby-foot. Il y a des poufs.
Ce qu'on comprend de cet aménagement que vous décrivez, c'est qu'on est dans une stratégie de long terme. C'est-à-dire on n'est pas dans l'école du métro où on va faire cela en attendant que ça se calme. Mais là, on est dans une stratégie de long terme. Il y a 6 écoles souterraines. Vous dites que 20 autres écoles sont en chantier. Qu'est-ce que ça dit de la projection de la ville dans une guerre de long terme?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai posé vraiment la question à tout le monde. Parce que l'évidence, c'est qu'ils sont prêts à ce que ça dure encore longtemps. Et que c'est pour ça qu'il faut mettre les moyens. Ces enfants, il faut qu'ils aient quand même un avenir malgré la proximité de la guerre. En même temps, comme les Ukrainiens sont toujours pleins d'espoir, tout le monde me dit, mais même quand la guerre sera finie, et elle sera bientôt finie, de toute façon, l'ennemi russe ne bougera pas. Alors, sous-entendu, est-ce que la frontière va rester là, à 30 km de Zaporijjia, ou est-ce que, même si les Ukrainiens récupèrent ce qui leur appartient, de toute façon, leur premier voisin reste la Russie? Et ce qui est certain, c'est que la Russie ne sera plus jamais un ami. Et la Russie sera toujours hostile, et qu'ils se préparent à une guerre. Alors, il y en a qui ont fait la comparaison avec la manière dont vit Israël depuis des décennies. Donc, ils se préparent à une vie, de toute façon, en proximité immédiate de l'ennemi qui ne leur voudra jamais du bien, et donc il faudra avoir ces espaces dans lesquels on pourra se réfugier le cas échéant.
En matière d'incertitude et d'insécurité, il y a aussi la question de la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui n'est pas dans la ville même de Zaporijjia, qui est à quelques kilomètres au sud, dans une ville qui Enerhodar, qui est sous administration russe. Aujourd'hui, qu'en est-il chez les habitants de la crainte d'un accident nucléaire du fait de la centralité de, ce lieu dans la guerre.
Alors, c'est, de toute façon, depuis le début de la guerre, c'est une grosse crainte parce que c'est une centrale, c'est la plus grosse centrale d'Europe, qui s'il est arrivé quoi que ce soit, la catastrophe serait supérieure à Tchernobyl. Les Russes l'ont occupée, il y a eu des combats autour, ça s'est calmé. Aujourd'hui, elle est en stand-by.
Elle est à l'arrêt,
en mode veille, d'une certaine manière. Le problème étant, malgré ce mode veille, c'est que le réservoir de refroidissement qui servait, donc, qui était rempli par les eaux du Dniepr se vide parce que il y a eu, si vous vous souvenez, en 2023
la rupture du barrage
en amont, non, en aval, ce qui fait qu'il y a une crainte aussi que simplement, même sans combat et même sans accident, on manque simplement techniquement de moyens de protéger les réacteurs. Et par ailleurs, effectivement, la centrale a été vidée de ses employés parce que sur les 11 000 de départ ukrainien, il n'en resterait plus que 2000. Les Russes ont fait venir des spécialistes, mais ce que me disait le maire d'Energodar en exil que j'ai rencontré à Zaporijia, c'est que ils n'arrivent pas à trouver des spécialistes suffisamment bons pour vraiment faire fonctionner la centrale, et qu'ils ont réussi à employer des gens un peu, voilà, à faire venir du petit personnel, mais qui ne suffit pas à entretenir les réacteurs, parce qu'une centrale, c'est pas, enfin, c'est-à-dire, c'est 11 000 personnes, c'est pas seulement les grands ingénieurs et les, c'est aussi des petites mains qui nettoient chaque bouton, vérifient que tout fonctionne, et tout ça, ça manque aujourd'hui. Et donc, l'état actuel de la centrale est critique, me dit le maire qui lui-même y a travaillé par le passé, et que toutes les conversations sur la remettre en route en un mois, ce que disent les Russes ou les Américains qui disent voilà, on va reprendre le contrôle, ça va être formidable, que tout ça c'est des conversations vides, parce qu'il faudrait déjà, parce qu'elle a été à l'arrêt aussi longtemps, déjà pour la remettre en marche, il faudra mettre énormément de moyens, il faudra faire très attention, et voilà, il faudra être extrêmement prudent parce qu'elle reste, ça reste un lieu explosif au sens immédiat.
Et vous racontez comment les anciens ingénieurs nucléaires de Enerhodar se sont retrouvés sous la pression russe de collaborer pour le fonctionnement de la centrale, comme par exemple Olé, cet ingénieur nucléaire dont l'histoire vous est racontée par sa mère, qui est médecin et qui a trouvé refuge. Et lui est arrivé à fuir, mais son histoire dit quelque chose de la mise sous pression de ces ingénieurs nucléaires de la centrale de Zaporijia. Véronika Dorman, vous avez en Ukraine également pu interroger le président Zelensky. C'était ce mardi, en exclusivité pour la presse française. Vous étiez avec des confrères et des consoeurs de la presse européenne. Dans quel état d'esprit avez-vous trouvé le président Zelensky ?
Alors, il se trouve que c'était vraiment juste après la petite séquence d'échange d'amabilité avec Vladimir Poutine, où Vladimir Poutine répond à l'ultimatum de cesser le feu en disant « Moi, je veux des discussions directes à Istanbul. Rendez-vous jeudi 15. » Et là, Vladimir Zelensky lui répond dans la foulée « Eh bien, très bien, moi, j'y serai. Chiche, rendez-vous à Istanbul. »
Bon, c'était hier et ça n'a pas eu lieu.
Et voilà, et ça n'a pas eu lieu. Mais au moment où il le dit, il est très content de lui, clairement. Alors, il est fébrile parce que ça reste quand même aussi un peu un jeu dangereux. Mais on est dans ce moment, alors tout s'enchaîne très vite, mais nous, on le voit dans ce moment où il a lancé cette invitation, ce défi à Vladimir Poutine en disant que lui, il y sera, et on attend. Et il attend parce que va répondre, et les Russes n'ont même pas répondu à ce moment-là s'ils y allaient ou pas, s'il y aura une délégation ou pas. Concrètement, dans les heures où on le rencontre, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, est encore en train de dire « Nous vous dirons en temps voulu ce que nous aurons décidé ». Voilà, donc Volodymyr Zelensky, clairement, est très concentré et tendu. Il a vu, juste avant que nous lui parlions, pendant presque une heure dans son bureau, il a fait un point presse avec un groupe de médias et d'agences. Vraiment cette déclaration en disant voilà, moi ma position c'est que j'y serai, et que si Poutine ne vient pas, ce sera la preuve qu'il ne veut pas la paix, qu'il ne veut pas négocier. Ce sera une manière de montrer que c'est vraiment lui le frein à toutes ces conversations et pas moi. Et donc il était assez tendu pendant cette présentation là, et puis quand on s'est posé, il s'est assis, il s'est relâché, et puis on l'a trouvé, moi je l'ai trouvé voilà, sûr de lui, plutôt plutôt confiant. En tout cas, il est pas fou, il sait que rien ne sera réglé et que là, vraiment, à chaque fois, c'est des coups de poker et c'est des coups de bluff et c'est à qui augmentera la mise. Mais concentré.
Ce qu'il vous dit aussi, au-delà du bras de fer très actuel dans la séquence diplomatique, c'est aussi que l'Ukraine ne survivra pas à 10 années de guerre, puisqu'on lui pose la question. est-ce qu'on peut se projeter dans 10 années de guerre? Il le dit très très très clairement. Est-ce que c'est la première fois qu'on entend ce discours-là? Ce n'est pas possible. L'Ukraine ne survivra pas.
Je sais pas si c'est la première fois qu'il le dit, mais en tout cas, il y a quand même cette idée, parce que c'est pas une façon de dire l'Ukraine est trop faible, et c'est pas un aveu de défaite, mais c'est une manière de dire c'est impossible d'avoir des guerres qui durent aussi longtemps. C'est regarder comment...
Pour la Russie, le dit-il,
voilà,
d'ailleurs.
Regardez comment notre pays est saigné, regardez comment l'argent que ça vous coûte aussi à vous, nos alliés. Et donc c'est plus une manière... moi, j'ai pas vu une déclaration vraiment de, voilà, on a un compte à rebours et 10 ans, on tient pas. J'ai plus vu un appel à vraiment à une prise de conscience qu'on ne peut pas avoir une guerre de 10 ans encore sur le territoire européen.
Merci beaucoup Véronika Dorman. Vos reportages à Zaporijja et à Kiev, ainsi que cette interview avec le président ukrainien Zelensky, à lire sur le site de Libération. On fera des liens sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Onuka, un groupe ukrainien de musique expérimentale formé en 2013 avec ce titre Seak, sorti avant la guerre en 2020. Vous écoutez Culture Monde, direction à présent la Turquie pour la deuxième partie de l'émission.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
À ce stade, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe ont convenu de tenir des pourparlers. Nous avons réaffirmé que, en tant que seul pays à avoir gagné la confiance de toutes les parties, nous sommes prêts à contribuer à ces réunions et serions heureux de les accueillir. Nous constatons que les contacts récents ont ouvert une nouvelle fenêtre d'opportunité. Nous espérons que cette occasion ne sera pas perdue.
Nous espérons que cette occasion ne sera pas perdue, déclarait il y a quelques jours le président turc Recep Tayyip Erdogan à propos des négociations que son pays accueille cette fin de semaine entre la Russie et l'Ukraine. Si la perspective d'une rencontre entre les deux dirigeants, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, s'est d'ores et déjà envolée, la Turquie espère profiter de l'occasion pour se replacer au centre du jeu diplomatique. Un activisme qui pourrait faire oublier que la démocratie turque est en crise. L'arrestation il y a 2 mois du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, grande figure de l'opposition, a déclenché une grande vague de contestation. Comment le président Erdogan tente-t-il de lier les enjeux de politique intérieure et étrangère à son profit? On en discute avec nos invités. Ahmet İnsel, que je salue à nouveau. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes économiste et politiste, professeur émérite à l'université de Galatasaray à Istanbul, et nous sommes également à distance avec Jean-Marc Coux, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Et on commence la discussion, comme chaque vendredi, avec l'édito de Marc Semo.
Merci Mélanie. Alors effectivement, il y a bel et bien un moment Erdogan. Donald Trump le revendique comme son ami, alors que les relations du président turc avec l'administration Biden étaient pour le moins houleuses. Erdogan se pose en acteur majeur. de ce Moyen-Orient prospère, pacifié, qu'évoque même le milliardaire. À la tête d'un pays pilier du flanc sud-est de l'OTAN et candidat à l'UE, il est celui qui parle à tout le monde et qui pratique de longue date Vladimir Poutine. L'ébauche des discussions russo-ukrainiennes, même foireuses, est une consécration. Il était en visioconférence aussi 2 jours plus tôt pour la rencontre entre Trump et le prince héritier saoudien et l'ex-djihadiste syrien Al-Shara, nouvel homme fort de Damas. Il est incontournable pour tout contrôle d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine et pour les garanties de sécurité à Kiev. Il en joue pour renouer avec l'Europe, d'autant qu'il s'inquiète sérieusement du renforcement de la Russie en mer Noire. Sur la scène intérieure, il durcit la répression, comme tu le disais, contre l'opposition de gauche, avec l'arrestation du maire du Grand Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Et, en revanche, il a réussi à mettre fin à la sale guerre de 40 ans contre les rebelles turcs kurdes du PKK, que son leader charismatique, Öcalan, emprisonné à vie, a dissous, appelant à la paix. Les planètes donc sont donc alignées, mais plus que jamais, il a besoin de l'Occident, avec une économie en déroute. Cela donne aux Européens des leviers pour peser sur le très autocratique dirigeant islamo-conservateur qui règne sans partage depuis presque un quart de siècle sur la République turque, qui laïque et jacobine, qui fut fondée par Mustafa Kemal sur les décombres de l'Empire ottoman et dont il démantèle systématiquement l'héritage.
Merci beaucoup Marc. C'est moi, je vous propose qu'on commence avec la séquence diplomatique qui se tient en ce moment à Istanbul entre la Russie et l'Ukraine. Ahmet İnsel, on pensait il y a quelques mois que la Turquie avait été marginalisée au profit des États du Golfe dans ce rôle de médiateur. Comment observez-vous la manière dont elle est parvenue à se replacer au centre du jeu diplomatique ?
D'abord, il y a eu l'évolution de rapprochement de la Turquie avec l'Arabie Saoudite depuis les évolutions en Syrie, puisque cet changement de situation en Syrie a été fait avec le soutien de la Turquie à Hayat Ahmed El-Shara et son HTS, mais en même temps avec le soutien de l'Arabie Saoudite. Donc du coup, déjà, il y a eu un rapprochement. Je rappelle que pendant longtemps, il y a eu un très grand froid entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. La Turquie soutenant le Qatar et l'Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis étant en bispice avec Qatar. Donc là, il y a un rapprochement déjà dans le Moyen-Orient et la Turquie s'éloigne un peu des frères musulmans, puisque à la demande de Sisi, déjà la Turquie avait a demandé aux frères musulmans d'arrêter d'émettre leur émission de télévision depuis Istanbul, etc., etc. Donc du coup, de ce point de vue-là, il y a un rapprochement qui fait que la Turquie et l'Arabie Saoudite aujourd'hui, peut-être pas toujours, mais aujourd'hui, travaille de concert sur la question syrienne. Et cet rapprochement a aussi une prolongation sur la question de positionnement de la Turquie. Et je pense que aujourd'hui, par rapport à l'Arabie Saoudite, le choix de la Turquie, c'est finalement probablement Erdogan depuis toujours, depuis la première rencontre entre la Turquie, entre l'Ukraine et la Russie, n'oublions pas, a eu lieu à Istanbul en mars 2022, c'est un mois après le début de la guerre. Et donc la Turquie a une expérience, elle a déjà réussi à faire un accord éphémère sur le transport de céréales qui a duré quelques mois avec l'accord de la Russie. Ça n'a pas duré éternellement, mais ça a quand même été une expérience importante. Et puis, il y a aussi un enjeu important de la Turquie par rapport à l'Arabie Saoudite, c'est que son positionnement géographique fait que prendre position au profit de la Russie ou au profit de l'Ukraine ou au profit des deux a des conséquences immédiates pour les deux pays. Le contrôle de la mer Noire. C'est ouverte aujourd'hui, depuis donc février 2022, les passages, les détroits sont fermés à tout bâtiment de guerre pour la mer Noire, ce qui a énormément affaibli la flotte russe à la mer Noire, ce qui explique la facilité avec laquelle l'Ukraine a contrôlé cette situation. Donc du coup, tout ceci fait que la Turquie a une position qui fait que l'Ukraine et la Russie ont intérêt de faire d'embarquer la Turquie dans cette négociation. Et Tayyip Erdogan a un avantage, c'est qu'il représente un pays membre de l'OTAN en même temps.
Alors, il y a un avantage, il y a un moment crucial et la Turquie est en train de jouer cette carte. Jean Marcou, je vous pose peut-être la même question, il pourrait aller un tout petit peu plus loin. Malgré toute cette convergence de facteurs en faveur de la Turquie, on voit que Poutine ne se rend pas à Istanbul. C'est un désaveu, c'est un échec peut-être donc pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Turcs qui sont hôtes de cette rencontre. Jean-Marc Roux ?
Je dirais que oui, c'est un processus qui est compliqué. Mais la Turquie est active sur le dossier ukrainien. Bon, Ahmet rappelait effectivement cette rencontre en mars. Il y avait également une rencontre même dans le forum d'Antalya, qui est un forum diplomatique organisé par la Turquie. Ça a été une des toutes premières rencontres entre Ukrainiens et Russes au début mars, avant même cette rencontre d'Istanbul à laquelle faisait allusion Ahmet. Mais on peut même citer un autre projet de rencontre, puisque un mois avant le conflit ukrainien, Recep Tayyip Erdogan se trouvait en Ukraine, et il avait eu comme projet, il avait annoncé même que très prochainement Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se rencontreraient en Turquie. Donc c'est, je dirais que c'est un vieux rêve de la diplomatie turque d'être capable de rapprocher Ukrainiens et Russes. Bon, effectivement, il y a eu quelque chose de concret avec cette initiative céréalière, bon, qui a duré pendant un an et qui a vu les Turcs avec l'Organisation des Nations Unies au cœur du processus, permettant la reprise des exportations ukrainiennes à travers un couloir sécurisé en mer Noire. La Turquie a également participé à des échanges de prisonniers, mais je dirais que ces relations, malgré tout, ces relations entre l'Ukraine et la Russie ne sont pas tout à fait équilibré, comme on pourrait le penser. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même une convergence turco-ukrainienne qui est importante, notamment la Turquie condamne l'annexion de la Crimée, la Turquie a dénoncé également comme une atteinte au droit international l'invasion de l'Ukraine. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas appliqué les sanctions et qu'elle a conservé un dialogue privilégié avec Vladimir Poutine. Mais quand on regarde bien depuis le début du conflit, les relations malgré tout entre la Turquie et la Russie sont inégales, parce que effectivement la Russie mobilise la Turquie quand elle en a besoin, mais en même temps elle supporte parfois mal certaines postures de la Turquie. Bon, je me souviens de cette réception de Volodymyr Zelensky en 2023 à Istanbul, au cours de laquelle Recep Tayyip Erdogan avait dit que l'Ukraine méritait d'être dans l'OTAN. Ahmet rappelait aussi le blocage des détroits. Donc les relations turco-ukrainiennes sont malgré tout inégales.
Et on peut ajouter les livraisons de drones également de la Turquie.
Les livraisons de drones et les joint ventures qui existent entre l'industrie turque et les industries ukrainiennes.
Marc Semo.
Oui, effectivement, il y a un rapport turco-ukrainien qui, à bien des égards, est plus fort que le rapport turco-russe. Erdogan joue néanmoins les interfaces, mais est-ce qu'il n'y a pas un élément nouveau maintenant ? C'est-à-dire au début de la guerre, donc l'Ukraine, le soutien de la Turquie avait été fondamental pour l'Ukraine. À l'époque, la Turquie pensait que cette guerre allait affaiblir la Russie. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un changement où il y a une inquiétude montante en Turquie sur le fait que cette guerre finalement risque de renforcer la Russie, qu'à certains égards la Russie pourra remporter sur le terrain diplomatique beaucoup de choses, notamment si les Américains restent ambigus, et que c'est aussi pour cela qu'elle se rapproche de l'Europe.
Alors Jean-Marc Roux,
et des Occidentaux.
Je vous laisse répondre Jean-Marc Roux.
Oui, je partage ce point de vue. Moi, ce qui m'a frappé ces derniers mois, et notamment au fur et à mesure où la Russie gagnait du terrain en Ukraine, c'est une réelle inquiétude de la Turquie de se retrouver finalement avec une Russie surpuissante en mer Noire. Parce que qu'est-ce qui arrivera sur le blocage des détroits ? Elle risque d'être directement confrontée ici avec la Russie. Et donc, je pense aussi que la Turquie est en recherche finalement d'un positionnement international, de toujours sauvegarder en réalité cette espèce de grand écart qui est assez difficile à tenir entre son appartenance à l'OTAN et les relations qu'elle peut avoir avec la Russie, avec le Sud global. N'oublions pas qu'elle a demandé son adhésion aux BRICS, donc elle joue finalement un jeu qui est complexe, qui est inégal. En même temps, je crois qu'elle joue ce jeu-là depuis longtemps et qu'elle a une certaine aptitude à le jouer.
Et d'ailleurs, on a vu ces derniers mois comment Ankara se positionne comme un partenaire incontournable de la nouvelle architecture de défense européenne. Ahmet İnsel, est-ce que c'est aussi une manière, pour faire le lien avec la scène politique intérieure, de s'assurer que les Européens ne viendront pas critiquer, ou en tout cas pas trop fort, la situation politique actuelle, à savoir les dérives autoritaires d'Erdogan?
C'est évident. Depuis 2016, c'est comme ça. Depuis l'accord de la Turquie avec l'Union européenne pour que la Turquie maintienne les migrants en Turquie, en contrepartie du financement de l'Union européenne, les critiques adressées par l'Union européenne sont très très réduites, et même au niveau du Conseil de l'Europe, il faudrait que le Conseil de l'Europe prenne des sanctions contre la Turquie pour la non-application des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est tous les quatre mois, on les reporte éternellement. Donc du coup, il y a une attitude compréhensive que les diplomates européennes nous disent ouvertement. Désormais, ce n'est pas caché. Et d'autre part, l'arrivée de Trump et ce refroidissement brutal des relations intra-transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis a créé une énorme aubaine pour Tayyip Erdogan de présenter l'armée turque, l'industrie militaire turque, mais surtout l'armée turque, comme un moyen partiel de substitution éventuelle à une éventuelle retrait des États-Unis. N'oublions pas que l'armée turque est quand même une armée, la deuxième armée en nombre de l'OTAN, une armée très aguerrie. Je rappelle qu'il y a à peu près 50 à 60 000 soldats, des soldats guerriers, hors territoire turc actuellement. Notamment au Chypre du Nord, mais aussi en Syrie, en Irak, en Libye, il y a des bases militaires au Qatar, au Soudan, etc., etc. Donc du coup, c'est une armée très mobilisable, et pour les Européennes, on voit d'ailleurs...
Il y a un intérêt, oui.
On voit.
Et en plus, c'est une des dernières armées qui a maintenu la conscription.
C'est une armée qui a maintenu la conscription en même temps, ce qui lui permet d'avoir à peu près entre 600 000 et 800 000 personnes mobilisables immédiatement.
Ce qui n'est pas négligeable à un moment où on retourne à la guerre de masse et d'attrition.
Et en même temps, l'industrie militaire aussi est intéressante. Alors, pour l'Europe, on ne sait pas s'ils vont autoriser, dans une logique de financement, à acheter à l'extérieur de l'Europe, d'Union européenne, mais la Turquie peut fournir énormément de matériel militaire parce qu'il y a une industrie qui est active. Alors ça permet à Tayyip Erdogan effectivement d'avoir une certaine compréhension, même si le Parlement européen est virulente contre Tayyip Erdogan. On a vu le dernier rapport, mais le Parlement européen ne pèse pas grand-chose dans la politique extérieure de l'Europe. Donc du coup, il va y avoir des critiques adressées en permanence, mais de fait, la Turquie revient, et probablement la Turquie va jouer un rôle relativement important en Albanie lors du sommet pour la communauté politique européenne. Tayyip Erdogan le dit ouvertement, systématiquement, que la Turquie sera un pilier du projet de défense commun européenne. Il revient. Et par contre, ce qui est difficile pour Tayyip Erdogan, c'est que tout ceci, la force de l'armée turque, etc., tient aussi à une stabilité économique de la Turquie. Et là-dessus, il y a le talon d'Achille de Tayyip Erdogan, c'est sa stratégie économique en interne qui affaiblit, à la fois l'affaiblit politiquement en intérieur, mais en même temps rend l'économie turque peu prévisible pour des investissements, même militaires.
Est-ce que, Jean-Marc, vous voyez un lien entre ce contexte géopolitique que vous avez décrit l'un et l'autre, plutôt favorable à Erdogan, et sa posture pour le moment, a priori totalement inflexible en interne face aux mobilisations deux mois après l'arrestation du maire d'Istanbul qui était donc officiellement accusé de corruption et qui a déclenché une vague de contestation. Voilà, comment est-ce que vous regardez cette posture de fermeté que maintient Erdogan? Est-ce que le contexte géopolitique l'aide à maintenir cette posture-là?
Ben effectivement, on a l'impression qu'il y a à l'heure actuelle deux volets en quelque sorte pour Erdogan. Le volet international, qui en particulier depuis l'affaire syrienne, avec le nouveau mandat de Donald Trump et notamment la brouille avec les Européens et l'hypothèse d'une défense européenne, comme le rappelait Ahmet, avec maintenant aussi ce rôle que joue la Turquie au Moyen-Orient dans sa relation avec l'Arabie Saoudite et dans la résolution du conflit ukrainien. Donc on a l'impression finalement que tout sourit à Erdogan à l'heure actuelle sur le plan international, alors même qu'il affronte depuis maintenant deux mois une crise politique. Alors il affronte depuis plusieurs années une crise économique grave qui a généré un mécontentement social durable qui se ravive et qui est l'un des problèmes fondamentaux à l'heure actuelle de la Turquie. Et tout ça a généré aussi une crise politique, une contestation où pour l'instant, bon, même s'il a effectivement résolu de manière primaire cette crise en arrêtant son principal rival, il n'a pas non plus éteint le mécontentement, éteint l'effervescence qu'il y a en Turquie. Et pour l'instant, on ne voit pas encore quelles vont être les sorties de crise au niveau interne. Or, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas seulement une crise passagère, je pense que c'est une crise qui s'appuie sur ce mécontentement social et qui s'appuie sur cette crise économique que finalement la Turquie n'a pas réussi à maîtriser malgré les remèdes de cheval qui ont été appliqués ces derniers mois à l'économie turque. Donc on en reste à cette crise et tant qu'on en est à cette crise, par la force des choses, on a un risque d'aggravation finalement de la contestation politique.
Et il faut rappeler que l'arrestation du maire d'Istanbul intervient dans un contexte de répression plus large, harcèlement judiciaire contre des journalistes, des élus, mais, et même des membres du patronat.
Et le membre du patronat, oui. Effectivement. Là-dessus, Tayyip Erdogan, en décidant l'arrestation et la suppression de diplômes universitaires, ce qui rend encore plus manifeste la volonté d'acharnement, si vous voulez.
Juste pour préciser pour les auditeurs, donc l'université qui avait délivré un diplôme universitaire,
l'université d'Istanbul,
à Ekrem İmamoğlu et qui est une condition nécessaire pour se présenter à la présidentielle, ce diplôme a été annulé.
C'est un diplôme qui a été obtenu en 1994, donc du coup un diplôme qu'on supprime 30 ans après et pour des raisons de vice de forme inventées. Et donc du coup on voit pour la population même conservatrice en Turquie, on voit dans les sondages d'opinion, cet acharnement devient un acharnement politique. Alors que Tayyip Erdogan essaye de montrer ça comme une répression contre la corruption des maires, etc. Mais ça devient un acharnement politique. Et à tel point que certains anciens proches de Tayyip Erdogan, comme Ali Babacan, qui était fondateur du parti de justice et développement, ministre des finances, premier ministre, ministre des affaires étrangères, ministre des finances, négociateur avec l'UE, le dit il y a quelques jours. Pour nous, les conservateurs, ce qui s'est passé le 19 mars, c'est comme ce qui s'est passé le 27 mai 1960, c'est-à-dire le coup d'État des militaires contre le gouvernement conservateur qui avait conduit à la pendaison du Premier ministre et de deux ministres. C'est un traumatisme pour le monde conservateur en Turquie, le coup d'État de 27 mai. Alors le rapprochement du 19 mars à cela, ça montre que du côté des conservateurs, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que Tayyip Erdogan, de la posture qu'il avait utilisée, qu'il avait usé, abusé de la posture de victime qui est enfin arrivée au pouvoir, il est devenu maintenant le bourreau. Il a passé dans une posture de bourreau. Et là, c'est quelque chose de difficile. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que Tayyip Erdogan est une bête politique. Il sait qu'on ne gagne pas les élections par la politique extérieure. Et dernièrement, c'est une bête politique, mais en même temps, en faisant interdire, incarcérer directement le maire d'Istanbul, il a montré pour la première fois que lui-même, il n'avait pas l'espoir de gagner une élection à la loyale. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement critique, même au niveau d'une classe moyenne conservatrice qui attache une énorme légitimité aux élections qui se respectent.
Est-ce que c'est aussi une rupture
C'est une rupture.
Pour l'AKP et pour la légitimité populaire, enfin, la mécanique dans laquelle s'est mis Erdogan depuis des années, à savoir de justifier son autoritarisme contre l'opposition, contre les institutions, contre l'armée, par la légitimité électorale dont il a bénéficié depuis 2003. Jean-Marcou, pardon, est-ce que cet argument de la légitimité populaire est en train de s'effondrer ?
Oui, c'est indiscutablement une rupture, parce que lorsqu'on analysait l'évolution du régime politique turc au cours des dernières années, ce qui frappait, c'est effectivement la montée de la répression, effectivement de l'autoritarisme, la limitation, par exemple, de la liberté de la presse ou de l'existence d'une presse officielle d'opposition. La réduction de l'état de droit, les atteintes à l'immunité parlementaire, les atteintes à certains éléments fondamentaux de la procédure pénale, mais ce qui demeurait malgré tout, c'est justement la liberté, disons globalement, l'honnêteté du vote avec des candidatures concurrentielles et des élections qui se tenaient régulièrement avec des résultats qui n'étaient pas contestables. Et là, pour la première fois, je crois qu'on bascule finalement dans autre chose, c'est-à-dire l'interdiction du rival principal du président actuel qui a effectivement toutes les chances d'être élu, en tout cas de lui causer de manière de sérieux problèmes pour être réélu si toutefois il devait y avoir une élection présidentielle. Donc là, on commence à s'attaquer, je dirais, véritablement, comme le disait, je crois, Orhan Pamuk dans une tribune au Monde, véritablement à ce qui restait de la démocratie turque. Et ça peut aller plus loin, on le voit, parce qu'il y a eu l'arrestation. Bon, cette arrestation, d'ailleurs, elle a été préparée, hein, on l'a vu pour la première fois. Il y a eu des arrestations massives d'élus de l'opposition, du parti d'opposition, non pas des élus kurdes, mais du parti d'opposition, c'est-à-dire le parti JEP, le parti kémaliste JEP. Il y avait eu littéralement des signaux annonciateurs avec l'arrestation de deux maires de mairies importantes faisant partie justement de la municipalité métropolitaine d'Istanbul, avec des arguments qui sont à peu près les mêmes chefs d'inculpation que ceux qui ont été brandis comme contre Ekrem İmamoğlu. Mais ça peut aller encore plus loin dans les prochaines semaines, parce que également il y a une affaire à l'heure actuelle qui est en cours contre le parti kémaliste lui-même. Hein. On lui reproche d'avoir des dysfonctionnements dans son 38e congrès, et il y a cette menace, qui est cette menace de nommer, alors un peu comme on a nommé aux municipalités dont on a déchu les maires des administrateurs provisoires, on veut nommer des administrateurs justement à la tête du parti kémaliste, qui voudrait donc bien dire, oui, qu'on essaierait d'étouffer littéralement l'opposition et le pluripartisme en quelque sorte.
Oui, j'allais dire ni plus ni moins que de mettre sous tutelle le principal parti d'opposition. Vous écoutez Culture Monde, les chercheurs Ahmet Tinsel et Jean-Marcou sont nos invités pour parler des manœuvres du président Erdogan, tant sur la scène politique intérieure qu'internationale. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec Cartooning for Peace. Notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes, c'est la bulle cartooning.
qui fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé Zehra Omeroglu, une dessinatrice turque qui vient de recevoir le prix Robert Russell Courage in Cartooning pour son travail, alors que la dessinatrice a eu maille à partir avec la justice turque suite à un dessin réalisé en 2020 durant la période Covid. Celui dont nous parlons aujourd'hui évoque la crise politique que traverse le pays depuis l'arrestation du maire d'Istanbul il y a 2 mois. On y voit Erdogan pourchassé par une foule en colère, des hommes et des femmes qui brandissent leurs bulletins vote et tente de rattraper le président, lequel est en train de s'enfuir, sur son dos accroché avec une grosse corde, une urne électorale qu'il semble avoir dérobée. On le voit, les poings serrés, courant à toute vitesse. Mais pour aller où, semble poser la question. Dans ce dessin, Zehra Omeroglu, un dessin à découvrir sur le compte Blue Sky et sur la page internet de Culture Monde. Une réaction de nos intervenants. Armet Insel, je vous vois sourire.
Excellente situation. Ça représente aujourd'hui, les sondages d'opinion montrent que à peu près plus de 60 et 70% des sondés en Turquie, selon des sondages solides, fiables, trouvent que l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu est une injustice. Donc, du coup, les sondages d'opinion montrent que si aujourd'hui Ekrem İmamoğlu se présentait face à Erdogan, il gagne haut la main. Alors que avant son arrestation, l'écart était important, mais maintenant l'écart devient de plus en plus important.
Ça veut dire qu'il n'a aucun intérêt à le libérer ?
Alors, il n'a aucun intérêt à le libérer. Il est devenu vraiment, je pense que Tayyip Erdogan est devenu prisonnier de la stratégie qu'il a choisie. C'est-à-dire qu'il ne peut plus reculer et il ne peut pas gagner les élections face à İmamoğlu, mais même peut-être... Même s'il arrive à empêcher la candidature d'İmamoğlu, un candidat du CHP qui a l'investiture d'İmamoğlu risque de gagner face à lui. Donc, de ce point de vue-là, nous rentrons dans une phase où, d'une autocratie électorale, comme on disait, ou c'est compétitive électorale, comme on disait pour désigner le régime en Turquie, on peut passer à une autocratie tout court, même pas électorale, ou des élections, des mises en scène électorale à la manière de Poutine ou Loukachenko à Biélorussie. Alors, Tayyip Erdogan, de ce point de vue-là, essaye aujourd'hui, et peut-être on viendra sur la question de la dissolution du PKK, mais essaye aujourd'hui de substituer à une logique de terreur d'État, à une logique de lutte contre le terreur par l'État, à partir du moment où PKK est auto-dissu, peut-être il essaiera de substituer une autre danger terroriste, c'est le terrorisme de l'opposition.
Alors j'allais justement y venir et vous poser la question. Dans ce contexte de fuite en avant autoritaire que vous avez décrit et de rapport de force avec l'opposition kémaliste, quid du jeu avec les Kurdes? L'autodissolution du PKK est survenue cette semaine. C'était pas une surprise, elle avait été annoncée il y a quelques mois et nous en avions parlé dans Culture Monde. Jean Marcou, est-ce qu'il y a un jeu politique qui se dessine avec le Dem Parti, c'est-à-dire le parti kurde légal autorisé? Est-ce que on peut imaginer que Erdogan monnayerait l'intégration démocratique des anciens combattants du PKK, par exemple, ou la reconnaissance de certaines revendications culturelles en échange d'un soutien du Dem Parti à l'AKP?
Ben effectivement, c'est la grande énigme, un peu l'énigme kurde de cette évolution politique turque, d'ailleurs intérieure et internationale. C'est qu'au moment même où justement la répression s'abattait, cette crise politique se nouait, en même temps on négociait un nouveau processus de règlement avec les Kurdes. Je veux dire que il faut bien voir que c'est pas la première fois qu'on est en présence de cette équation finalement Erdogan, l'opposition et le parti kurde. Finalement, il y a, quand on regarde bien, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, lorsque la dernière tentative de processus de règlement avec les Kurdes avait eu lieu, on voyait que Recep Tayyip Erdogan cherchait à élargir en fait sa base électorale, son soutien. Et d'une certaine manière, pour élargir son soutien, il n'avait que deux solutions, qui étaient soit de se rapprocher des nationalismes de l'extrême droite, soit au contraire d'essayer de gagner plus largement le vote kurde, et en particulier le vote kurde de gauche, en menant à bien un processus de règlement. Bon, finalement, il y a 10 ans, Recep Tayyip Erdogan a d'abord parié sur une alliance avec les nationalistes, ce qui a débouché sur la révision de la Constitution, ce qui lui a permis de réviser la Constitution et ce qui lui a permis de créer un régime présidentiel autoritaire, tendance autoritaire. Et finalement, au contraire, en abandonnant l'idée d'un processus de règlement avec les Kurdes, et même en déclenchant une répression qui a provoqué les incidents qu'on connaît dans le sud-est, le ravivement de la guérilla, la guérilla urbaine qui a pu y avoir lieu en 2016-2017. Aujourd'hui, finalement, alors ce qui est assez frappant, c'est que ce processus de règlement, il a été lancé par le leader de l'extrême droite kurde, de l'extrême droite turque, Devlet Bahçeli, ce qui était absolument incroyable au mois d'octobre dernier, et que finalement le processus a abouti, et qu'on est dans une situation presque où Recep Tayyip Erdogan parvient à tenir, là aussi, hein, c'est le roi du grand écart sur le plan international, mais aussi sur le plan intérieur, parce qu'il tient d'un côté avec lui l'extrême droite, et de l'autre côté, il a réussi à séduire finalement le Dem Party, à embarquer le Dem Party dans un nouveau processus de règlement qui a abouti à la dissolution du PKK. Donc on peut se demander, effectivement, comme vous le demandiez, s'il n'a pas réussi à gagner les deux, c'est-à-dire les nationalistes d'un côté et de l'autre côté les Kurdes.
On arrive au terme de cette émission. Un tout petit mot de conclusion, Ahmet İnsel.
Oui, le problème, c'est que Tayyip Erdogan est devant toujours deux masses. D'un côté, il y a les Kurdes qui pèsent à peu près 10-12% de l'électorat. Il y a d'autre côté une grande masse de nationalistes turcs hyper anti-kurde, et donc du coup ce qui lui rapporte la voix que éventuellement une partie des Kurdes peut venir vers Erdogan, il le perd de l'autre côté. Et de ce point de vue-là, Erdogan est vraiment dans une quadrature du cercle, parce que le problème kurde est d'abord un problème turc. Il faut d'abord que les Turcs sachent ce qu'ils veulent que les Kurdes deviennent.
Et quelle place dans la société. Merci infiniment à tous les deux. Ahmet İnsel, je rappellerai La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, c'est paru aux éditions La Découverte. Et puis je signale aussi votre dernier article pour le média AOC, Erdogan est-il un Trump turc, paru cette semaine. Merci beaucoup Jean-Marc Coux également d'avoir participé à cette émission. Je renvoie aussi vers plusieurs entretiens, interviews que vous avez donnés à la presse ces derniers jours pour analyser la situation en Turquie. Lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une nouvelle série consacrée aux politiques carcérales, alors que Donald Trump promet de réouvrir la prison d'Alcatraz pour les criminels les plus dangereux. Et bien, nous irons voir comment en Russie, en Tunisie, au Salvador, on utilise la prison à des fins de politique sécuritaire. Et on parlera aussi du problème de surpopulation carcérale en France et au Royaume-Uni. Et dans un instant, les midis de culture.